Bonjour à tous, ici Margot du compte Instagram Oregon Pizzeroll et vous êtes sur le podcast Daily Poney, le podcast de la vraie vie de cavalière. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast Daily Poney et aujourd'hui on accueille Montaigne du compte Un Poney Jaune.
Merci de m'accueillir sur ton podcast.
Ben, avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, Montaigne, t'es quand même assez connue, on va dire, sur les réseaux des influenceuses poney. Plutôt connue sous le pseudo Un Poney Jaune. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ton histoire avec ton cheval et ça serait intéressant que tu puisses nous en parler.
C'est vrai que j'en parle un petit peu parce que finalement, mon histoire avec Hockey, c'est un peu la trame du développement de mes réseaux sociaux. Ça reste toujours un peu en toile de fond. Et en tout cas, c'est pour ça que je suis là. Je suis très contente de pouvoir partager mon histoire avec Hockey, qui m'a fait grandir. Donc voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici.
Et ben, c'est un grand plaisir de t'accueillir.
Merci.
Est-ce que déjà tu peux te présenter dans un premier temps pour les gens qui te connaissent pas du tout ?
Alors, je m'appelle Montaigne, j'ai 26 ans depuis peu. Ça fait du coup 21 ans que je monte à cheval. Je travaille dans le monde équestre, mais sans être vraiment au centre des écuries tous les jours. C'est-à-dire que moi, je travaille dans le marketing, je suis diplômée en marketing. J'accompagne des entreprises équestres à développer leur business, voilà, et faire vivre ce petit monde d'un point de vue plus commercial, on va dire ça comme ça.
C'est Un Poney Jaune qui t'a ouvert toutes ces portes-là ou c'était déjà quelque chose que tu voulais faire ?
En fait, c'est Un Poney Jaune qui m'a ouvert des portes, effectivement. J'ai vraiment mis le pied dans certaines entreprises grâce à Un Poney Jaune. Disons que sur le CV, c'est ce qui, je pense, a fait tilt quand je suis rentrée dans ces boîtes-là. Et comme j'avais plein d'opportunités, de par mon expérience avec Un Poney Jaune, je me suis dit pourquoi pas continuer ? Comme ça, je concilie ma passion et mon métier. Et ça s'est fait comme ça.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton cheval ?
Alors, OK, c'est un petit criollo argentin de 21 ans aujourd'hui. Alors, je l'ai connu il y a maintenant à peu près 15 ans. Je l'ai connu en tant que cheval de club. Après, c'est devenu ma demi-pension. Et ensuite, c'est devenu mon cheval. C'est un cheval qui est né en Argentine. Et qui a vraiment un passé assez particulier. Disons qu'il y a beaucoup de flou dans son histoire, que je sais pas vrai. On n'a aucune idée de son élevage, par exemple. On n'a aucune idée de ses parents. Donc, sur les papiers français, il est ONC. Quand il est arrivé en France, disons qu'il avait un comportement qui traduisait des traumas passés. Et ça a été assez particulier à gérer pour moi, pour la suite, quand je l'ai pris en charge.
Si tu veux bien nous raconter justement votre histoire, alors peut-être c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux nous parler de toi en tant que DP avec lui ou tu veux commencer l'histoire au moment de l'achat ?
Eh bien, je pense que ça peut être intéressant de parler du moment où je l'ai en mi-pension. En fait, pour la petite histoire, donc moi j'étais cavalière de club, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était pas tant le côté technique de l'équitation, surtout qu'à l'époque j'étais dans un centre équestre qui faisait que du CSO, et c'était pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Je suis plus cavalière de dressage dans l'âme, et moi ce qui m'intéressait finalement, c'était vraiment la relation avec le cheval, déjà à pied, le contact avec le cheval, et petit à petit aussi développer le contact en selle et la communication en selle. Et pour moi, ça a passé par le dressage. Mais j'étais un peu dans ce centre équestre, je me sentais pas trop en capacité de créer un lien avec les chevaux de club.
Tu avais quel âge à cette époque-là ?
J'avais 14 ans à peu près.
Ok, donc toute jeune.
Ouais, assez jeune. Et le truc, c'est que du coup, j'en ai fait part à mes parents. Je leur ai dit, ouais, ça m'embête un peu, j'arrive pas à créer une histoire, à créer une relation. Ma mère m'a proposé de me prendre une demi-pension. Donc, on m'a pris une demi-pension sur un poney qui s'appelait Chiffon, qui en réalité s'appelait Looping. Mais Chiffon, ça correspondait entre guillemets plus à son tempérament, en fait. C'était un cheval qui était totalement apathique, assez typique de beaucoup de chevaux de club, et il en avait tellement ras-le-bol de tout, et en plus de ça, il a développé un emphysème assez sévère, donc il a été mis à la retraite très très tôt.
D'accord.
Parce qu'il pouvait plus être monté, donc je me suis retrouvée très rapidement sans ma petite demi-pension, sans mon copain, quoi. Et il n'y avait plus d'autres chevaux à part Hockey à prendre dans le club en demi-pension. Comme personne ne voulait vraiment d'Hockey, parce que c'était devenu un petit peu la bête noire des écuries, comme c'était un cheval... qui disait merde. Clairement, il a dit merde à sa vie de cheval de club. Il faisait tomber ses cavaliers, il était assez agressif aussi avec les autres chevaux. Enfin, c'était la bête noire. Il y a pas d'autre terme, c'était la bête noire. Et moi, je me suis retrouvée comme ça un soir à voir ma mère toute contente qui me dit « Ah, je t'ai pris Hockey en demi-pension. Ah, d'accord, tu veux ma mort. Et je me suis quand même libérée, entre guillemets, de mes a priori. Je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça peut donner. Alors effectivement, au début, c'était pas facile. Il faisait bien comprendre que si je m'approchais trop, je risquais d'être mordue ou d'avoir un coup de pied. Au début, j'avais très très peur de notamment lui curer les pieds. C'était un truc qui me faisait super peur parce qu'il montrait vraiment le pied en mode « fais gaffe ». Donc les premiers mois n'étaient pas faciles. Je savais pas trop sur quel pied danser, je marchais sur des œufs. Finalement, c'est quand je lui ai proposé des choses qui n'étaient pas du tout dans ses habitudes, ni d'ailleurs les miennes, qu'il s'est ouvert. Vraiment, il a montré qu'il y avait un petit cheval avec un cœur énorme derrière. En fait, je me suis mise au travail à pied alors que j'en avais jamais fait de ma vie. J'ai même lâché en liberté un jour où il n'y avait personne parce que j'avais peur qu'on m'engueule ou qu'on me juge. Et en fait, c'est là qu'il est venu assez naturellement vers moi et il a proposé des choses. Et j'ai dit, bah vas-y, on va continuer comme ça.
T'as fait du travail à pied, mais sans être accompagnée, comme ça, au feeling.
Ouais, vraiment en autodidacte. Alors, c'est pas quelque chose que je conseille particulièrement. À l'époque, c'était pas quelque chose dont on parlait. Enfin, moi, pour moi, c'était... quand on le voyait, c'était dans les cirques ou le côté équestre, spectacle, quoi. Dans le milieu sportif, qui est vraiment très présent dans ma région, c'était quelque chose d'inexistant et de marginal.
Du coup, tu t'es formé, enfin, t'as regardé comment, t'as fait les vidéos YouTube,
Ce qui m'a inspirée, c'était sur Equidia, j'avais vu un documentaire. C'était la leçon indispensable des frères Pignon, entre guillemets.
Oui, ouais, exact. Ah ouais, carrément, ça me parle. Ouais.
Donc, il y avait les deux frères Pignon et Magali Delgado. Et j'ai dit, waouh, c'est génial. Et donc, il y a de ça qui m'a inspirée. Après, j'ai fouillé, j'ai acheté des livres sur le travail à pied. J'ai acheté tout ce qui était programme de la Sens. Enfin, voilà, tous les bouquins, Elisabeth de Corbigny. Et puis, j'ai commencé comme ça, un peu en autodidacte. Et finalement, comme les exercices que je faisais, ça avait l'air de plutôt bien marcher. Et que vraiment, je sentais le cheval qui s'ouvrait à moi, qui changeait d'attitude. Je me suis dit, on va continuer comme ça.
Donc toi, ce que tu nous expliquais, c'est que tu as commencé le travail à pied, ça a changé quelque chose, et donc l'ADP s'est bien passé par la suite.
Ah ouais, après on était comme cul et chemise, comme on dirait. C'était vraiment mon cheval de cœur, tu vois.
Et tu l'as gardé combien de temps, ADP ?
À peu près 2 ans.
D'accord, ah oui, ouais. Quand même une longue DP.
Ouais, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais prête à rester en DP ad vitam aeternam. J'avais un peu laissé de côté l'idée d'acheter un cheval tout de suite. J'étais encore jeune, hein, j'étais à peine lycéenne. Enfin, j'étais encore au collège quand la DP a commencé. Et ce qui s'est passé, c'est que clairement, on m'a fait comprendre que OK allait être vendu. On m'a dit, bon, c'est soit toi, soit on sait pas trop, il ira à qui en voudra, quoi. Et comme je sentais bien que les seules personnes qui en voudraient n'étaient pas forcément des personnes de bonne intention, si on pouvait dire ça comme ça.
Et du coup, il était à vendre... je déteste dire ça, mais parce que les performances n'étaient pas bonnes ou...
Parce que oui, il ne faisait plus le job de cheval de club. Enfin,
d'accord.
Voilà, quand il te met le 3/4 de tes cavaliers par terre, je pense bien qu'en tant que gérant de club, tu n'as pas envie de le garder. Et je me suis dit, je peux pas... Enfin, j'avais trop peur qu'il finisse mal. Et mes parents s'étaient aussi beaucoup attachés à lui. Mes parents sont pas cavaliers, mais ils adorent les animaux. Et ils s'étaient quand même beaucoup attachés à lui, donc on a beaucoup discuté. Ça n'a pas été facile, parce que mes parents m'avaient toujours dit « Tu achèteras un cheval quand tu auras les moyens, tu seras autonome financièrement. » Et j'étais d'accord avec cette idée. Au final, on a dit « Non, mais c'est un sauvetage, il faut faire quelque chose, c'est devenu un membre de la famille, en fait. »
En tant que DP, tu t'en, je sais pas, monté, occupé, enfin, tu le voyais combien de fois par semaine pour qu'il fasse partie de ton quotidien ?
J'étais à 4 fois par semaine.
Ah oui, donc c'était une DP assez conséquente quand même.
Ouais, j'y allais après les cours le soir et c'était vraiment devenu, c'était mon quotidien. C'était, comme je te dis, c'était vraiment devenu un petit membre de la famille parce que je pouvais pas passer une semaine sans le voir. Enfin...
Et je suppose qu'il y a des choses qui ont dû changer quand même quand t'es passé de DP à propriétaire.
Les premiers temps, je suis restée dans les écuries où j'étais, même si j'y étais pas bien. Parce que sur plein de points, notamment éthiques, ça me plaisait pas du tout. C'est-à-dire que, ok, tout le long où il a été cheval de club, ils l'ont mis en stall. Donc il vivait attaché à un mur. Ça déjà, c'était inconcevable pour moi. Et quand je l'ai acheté et que j'ai demandé à ce qu'il ait au minima un box, on m'a dit non, mais il n'y a pas de place. J'étais, je comprends pas. il y a un cheval qui est parti, elle a pas ça, non mais c'est pas pour lui. Et du coup pendant un an il est resté en stall alors que j'étais sa propriétaire et j'avais été un petit peu, enfin j'étais jeune et j'avais aucune connaissance des autres écuries autour et puis je trouve que, je sais pas si c'est partout pareil, mais ici pour trouver de nouvelles écuries c'est très compliqué. Et j'avais aucune idée d'où je pouvais le mettre, je voulais pas rester là. Et finalement, c'est par le bouche à oreille, c'était le collègue de mon père qui avait une sœur qui avait des écuries et qui faisait de la pension avec des sorties au pré tous les jours, mais en individuel, enfin au paddock en individuel. Mais c'était déjà super bien par rapport à la stalle, tu vois. Et du coup, j'ai mis le cheval là-bas, mais du coup, je me suis vraiment retrouvée toute seule, sans coach. Mais ça a été une vraie révolution pour nous deux, en fait.
Parce que c'était genre une petite pension familiale, il n'y avait pas forcément les installs, les coachings, tout ça?
Alors, en fait, ce qui se passait, c'était qu'il y avait ce qu'il fallait en installation. C'était très bien pour ça. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas le BPJEPS et qui faisait juste de la pension et qui laissait quelques intervenants triés sur le volet venir. Sauf que c'était du CSO, principalement, et que moi, le pur CSO, ça ne m'intéressait pas. On a eu quelques coachs aussi de dressage qui sont venus. J'avoue que je n'ai pas du tout apprécié les méthodes parce que je ne trouvais non plus pas de coach qui avait des méthodes respectueuses. Du coup, j'ai dit, bon, bah, tant que je trouve pas, je me démerde un peu toute seule et j'apprends de mon côté, quoi. Et on a fait comme ça, et puis ça nous a pas du tout empêché d'évoluer, au contraire.
C'est pas quelque chose que tu regrettes, en fait, ou des fois tu te dis, ah, j'aurais pu faire ça ou j'aurais pu faire ci. En fait, t'es plutôt contente d'avoir été seule avec ton cheval.
Bah oui, dans le sens où dans tous les cas, on apprend de ses erreurs. Moi, ça m'a pas du tout posé souci. Après, quand j'ai trouvé des enseignants qui me plaisaient, bah j'ai sauté sur l'occasion. Mais maintenant, tu vois, j'ai plus, cette honte à dire que des fois, oui, je travaille toute seule. Enfin, la plupart du temps, je travaille toute seule et j'apprends toute seule. C'est pas pour ça que j'évolue pas et c'est pas pour ça que mon cheval est malheureux, etc. Tu vois.
Après, t'apprends toute seule, mais tu t'informes aussi beaucoup, tu lis beaucoup de choses. On le voit sur ton compte Instagram, tu fais beaucoup de posts à visée pédagogique, en fait, et tu passes beaucoup de temps à lire, à analyser les choses.
Ouais, je passe mon temps à me renseigner, j'ai suivi des programmes en ligne, je regarde énormément les gens monter, que ce soit sur Internet notamment. Je trouve que YouTube, sur le côté équitation, en anglophone, il y a énormément de choses très intéressantes. Au niveau média, en France, je trouve qu'on est très limité sur les professionnels qui se mettent en avant et qui partagent une partie de leur méthode. Dans tous les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus développé. Je regarde beaucoup, je m'inspire, je prends ce qui m'intéresse, et voilà, on avance comme ça. Maintenant que j'ai trouvé une pension où je suis plutôt bien et où le cheval est bien aussi, on a une coach sur place qui est pile poil comme il me fallait. Elle allie vraiment l'éthique et le technique, et c'est parfait.
Donc du coup, tu nous redisais, avant que je te coupe, que tu étais dans cette petite pension. Est-ce que tu as eu, à partir de là, justement, en étant toute seule, des mauvaises surprises, en fait, en tant que jeune cavalière, jeune propriétaire, pas forcément encadrée?
Disons que quand je voyais que le cheval était réfractaire à quelque chose, en fait, je me disais, ok, soit il n'a pas compris ce que je lui demandais parce que je le demandais mal, soit c'est tout simplement une demande qui ne lui correspond pas. Je changeais ma méthode, j'en cherchais d'autres. Et finalement, on a toujours trouvé des petits chemins, tu sais, d'entente. Donc, j'ai pas eu de problème spécifique, finalement, avec le cheval en lui-même. C'est juste que cette pension, j'y suis pas restée parce que j'y étais pas à l'aise en tant que jeune cavalière qui se cherchait, parce que c'est là-bas que j'ai commencé à monter, notamment sans mort, et on me regardait de travers parce que c'était une écurie très tournée compétition, très tradie dans l'idée. C'était que des personnes plus âgées que moi, donc pas du tout la même génération de cavaliers qui cherchent des alternatives ou qui cherchent à vraiment s'adapter à son cheval. J'entendais bien qu'on me critiquait, je voyais bien qu'on m'observait quand je montais à cheval. C'était assez particulier comme configuration parce qu'en gros, t'avais le clubhouse qui était en hauteur par rapport à la carrière et tu vois. En fait, quand on te regardait.
D'accord, le point d'observation.
Ah ouais. C'était des miradors, en fait. Et du coup, ouais, j'étais pas à l'aise. En tant que cavalière, je me sentais pas à ma place. Donc, j'ai voulu faire plus. J'ai cherché à faire plus pour le cheval et j'ai cherché de la pension près. Du temps s'est passé hein, dans tout ce récit. J'avais passé le lycée, j'avais commencé aussi à être étudiante, donc j'étais à Lyon. Donc, je rentrais le week-end. Ensuite, je suis partie à Bordeaux.
Ok, l'opposé.
Ouais, voilà, l'opposé. Parce que, donc, je suis en Haute-Savoie, je l'ai pas dit, je crois pas.
Non, je crois que tu ne l'avais pas précisé.
Et quand je suis partie à Bordeaux, je me suis dit, oh, c'est peut-être l'occasion de le mettre au pré en troupeau. Au moins, il aura toute sa liberté de vagabonder comme bon lui semble. J'ai travaillé chez PAD un petit bout de temps en job étudiant et j'avais une collègue qui avait une espèce d'association pension au pré et elle m'avait proposé de mettre le poney là-bas. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, il y avait plusieurs hectares. Sur le coup j'ai fait oh, c'est génial. Sauf que c'était génial au tout début et puis après on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de soucis dans ce pré-là. Notamment le sol qui n'était pas du tout stable et il y a eu des effondrements.
Ah oui carrément.
Oui en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des effondrements dans le pré parce qu'il y avait une source souterraine...
Qui n'était pas connue.
Et du coup, il y avait des trous qui se formaient comme ça, d'un coup. Donc, c'était pas très safe pour les chevaux, évidemment. L'hiver est arrivé... Enfin, en gros, ils sont passés de, je crois, 8 hectares, si ce n'est plus, à 2000 mètres carrés pour 7 chevaux. C'est devenu un vrai champ de boue, mais quand je dis de la boue, c'est-à-dire que... Moi, je ne pouvais plus aller voir mon cheval dans la boue, j'envoyais mon copain. J'arrivais pas à accéder à mon cheval, c'était mon copain qui allait, puisqu'il était plus grand que moi. Le cheval, du coup, il bougeait plus, il restait autour du râtelier. Déjà, ça, c'était plus possible. Enfin, pour moi, le pré, c'est pas censé être un lieu où, justement, le cheval, il fait du surplace, tu vois.
Ah ouais, non, pas du tout.
En plus de ça, ils avaient pas d'abri en plein hiver.
Alors, quand tu dis pas d'abri fixe, type une cabane, ou même pas d'abri avec des arbres, des petites combes pour se cacher, enfin, voilà, pour être coupé du vent ou...
Et bah, il n'y avait pas du tout d'abri fixe. Et alors, il y avait des arbres, mais ils étaient au-dessus de la rivière. Donc, en fait, s'ils voulaient vraiment s'abriter, il fallait qu'ils aillent dans la rivière. Et voilà, j'ai vu mon cheval dépérir. Franchement, je l'ai vu déjà perdre énormément de poids, perdre, tu sais, sa vivacité, ce petit truc dans le regard qui fait que tu sais qu'il va bien. Et moi, je pouvais plus. Enfin, quand j'y allais, je pleurais. Je pouvais rien faire d'autre que pleurer et dire à mon mec, tu peux aller vérifier qu'il a pas de bobo.
Bon, du coup, ça t'a complètement dégoûté, j'imagine, cette expérience.
Ça m'a dégoûté, oui, non, ça m'a pas dégoûté du pré en soi. C'est juste que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans ma région, trouver des pensions pré qui étaient adaptées, bah, c'était très compliqué. Parce que, bah, à l'heure actuelle, j'en ai toujours pas trouvé. Quand on cherche et qu'on trouve le peu qu'il y a, elles sont pleines. Donc tu t'adaptes.
Pourtant c'est marrant parce que tu parles de Haute-Savoie, alors moi c'est une région que je connais un tout petit peu. En fait avant d'y aller, je m'étais dit bah oui c'est la montagne, c'est la verdure, enfin il y a forcément des... ça doit être rempli en fait de prés, et en fait pas du tout.
Non non, bah après il y a de l'espace en montagne, mais c'est très, comment dire, je trouve plus le terme, c'est que de la pente finalement. C'est des alpages, tu mets des vaches, mais tu mets pas des chevaux.
Oui, ou des chèvres, voilà. Ouais, mais pour les chevaux, c'est compliqué, ouais.
Ouais. Ouais, ouais.
Donc là, après ça, t'es reparti en pension box paddock ?
Oui, et ça se passe très bien. Il a eu plusieurs copains différents qui sont partis, malheureusement, et là, il a retrouvé une petite copine grise qui est plutôt chouette.
Parce que, donc, quand t'es parti de cette pension pré, ensuite, tu es partie en pension box paddock et c'est la même pension où tu es actuellement ?
Celle où je suis actuellement, ouais, c'est la toute dernière après le pré, en fait.
Ah oui, donc ça fait un moment que tu y es quand même.
Oui, maintenant, oui. Je suis plutôt contente d'où je suis. Il y a une option pré ou en troupeau, sauf que bah, il n'y a jamais personne qui en part. Je me dis le jour où il y a une place au troupeau, il y sera. Mais pour l'instant, bah, il n'y en a pas. Et puis, il est bien, franchement. Je me prends plus la tête parce que je sais qu'il est bien.
Oui, puis là, il est sur des sorties quotidiennes.
Ouais, ouais, ouais.
Sa petite maison le soir où il rentre faire son dodo, mais en soi, il est dehors sinon.
Oui, c'est ça.
Il est en individuel ou avec d'autres chevaux en paddock ?
Alors, de base, il est avec d'autres. Mais là, bah, la petite grise qui est à côté de lui au box et avec qui je le lâche moi personnellement l'après-midi, le matin, elle est avec une autre jument et lui, il n'a pas de copain le matin. Parce qu'on n'avait pas trouvé de copain autre qu'elle. Le matin, il n'a personne, mais je fais toujours en sorte qu'il voit, qu'il ait son petit moment avec celle que j'appelle son amoureuse l'après-midi.
Une chose que tu ne nous as pas précisé, c'est depuis combien de temps tu as ton cheval ?
Si mes calculs sont bons, ça fait 11 ans que j'ai OK.
Écoute, ton pseudo, c'est un poney jaune, donc en référence à la robe de hockey,
oui.
Je suppose. Oui. Et ça fait 11 ans que tu es sur les réseaux ou pas du tout ?
Et bah, dans ces eaux-là, parce que finalement, j'ai commencé à aller sur les réseaux quand j'ai eu hockey en demi-pension. À l'époque, j'étais sur Skyblog.
Ouais.
Et j'avais fait vraiment un journal de bord. C'était surtout pour moi, de base. Le truc, c'est que y a des gens qui sont arrivés par là. Et j'aimais bien, du coup, pouvoir échanger mes ressentis, ce que je faisais. Des fois, les gens me donnaient des conseils qui étaient plus ou moins bons, hein, mais au moins, il y avait de l'échange. Et puis, j'aimais bien ce côté « je découvre, je partage ». Et après ça, j'ai été sur YouTube.
Plateforme où... On va dire où t'as explosé, c'est plus là où t'as été le plus connue.
Ouais, ouais, à l'époque, ça marchait plutôt bien et c'est vraiment ça qui m'a ouvert, entre guillemets, le monde de l'influence poney. Surtout qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, c'était les prémices. Et j'ai commencé comme ça. Mais YouTube, ça demandait tellement d'investissement en termes de temps et même des fois d'argent. Moi, j'étais étudiante, j'arrivais plus à tout gérer, donc... J'ai fini par arrêter, et puis il y avait aussi tout le côté, les commentaires négatifs, mais genre virulents, j'arrivais pas. Ça me pourrissait la vie, j'ai fini par dire tant pis, je migre sur Instagram, les gens sont plus gentils.
T'en avais beaucoup ?
Il y en avait quand même pas mal. Et des trucs, en plus des trucs qui sont tellement sans fondement, enfin je veux dire, quand on te critique juste sur ton physique, ou qu'on te dit va te pendre.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, non, c'était... Et je comprenais pas, et j'ai un gros problème avec l'injustice, et pour moi, c'était tellement injuste que c'était insupportable. Donc j'ai dit, tant pis, YouTube, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend de la joie de vivre, alors laisse tomber. Même si en soi, le côté réalisation de vidéos, j'aimais bien pour le côté artistique et puis technique.
Est-ce que tu faisais... Enfin, moi, je te connais, mais tu faisais quel genre de vidéos pour expliquer ?
Alors, j'avais une ligne éditoriale qui était assez... plus ou moins similaire à ce que je fais sur Instagram, c'est-à-dire que j'avais tendance à partager ce que je découvrais, que ce soit en termes de connaissances sur le cheval, mais je partageais aussi 2-3 trucs sur l'équipement, des choses aussi peut-être un peu plus philosophiques. J'avais fait 2-3 vidéos où je parlais de ma philosophie par rapport au cheval. Après, je suis arrivée sur Instagram où je trouve que j'ai trouvé un rythme un peu plus agréable. Et voilà, je continue à partager ce que je découvre, le fruit de mes recherches et de mes lectures scientifiques, parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, en fait, de faire découvrir ce qu'on sait concrètement sur les chevaux. Parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont menées, mais finalement, quand on n'entend jamais parler et qui ne sont jamais relayés jusqu'aux principaux intéressés, c'est-à-dire aux professionnels du cheval. Du coup, je me dis, autant les mettre en valeur, autant mettre ce travail en valeur. Toujours le prendre avec un certain recul, parce que des études scientifiques, on parle d'un échantillon. Tu peux pas dire, parce que le résultat de telle étude, c'est ça. Tous les chevaux doivent être traités comme ça, doivent avoir ce traitement-là. Enfin, tu vois le délire. Pour moi, le principal point important avec les chevaux, c'est l'adaptation.
Tu pars toujours sur des études anglaises, parce que tu me disais tout à l'heure que tu t'inspirais beaucoup de ça et que tu lisais beaucoup de choses de la culture anglophone. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Je fais avec ce que je trouve. Et c'est vrai que malgré tout, la plupart des études qui sont faites par des personnes d'universités étrangères ou de centres de recherche étrangers, donc c'est en anglais souvent. Puis même, j'ai remarqué que même les scientifiques français avaient tendance des fois directement à faire leur papier en anglais, parce que c'est finalement un peu le langage universel pour partager, quoi.
Tu partages donc des contenus assez pédagogiques, tes recherches, mais tu partages aussi un peu quand même le quotidien avec ton cheval. Plus sous format story, j'ai l'impression.
Ouais. Je sais pas pourquoi, je me suis fait la réflexion il y a 2-3 jours que c'est vrai, je partageais pas tant ce qui me concernait directement avec OK en poste. Je pense que c'est une espèce de biais que j'ai dans la tête où je me dis, si je partage des choses directement en poste, qui ont plus de visibilité pour le coup, je vais me faire attaquer. C'est très bizarre. J'ai toujours peur parce que, en fait, quand tu postes en story, c'est ta communauté qui va principalement voir tes stories. Donc tu te dis, c'est bon, je les connais, je sais qu'ils sont cool. Donc ça, j'ai aucun souci à poster en story. Mais quand il s'agit de partager vraiment ma relation directe avec mon cheval et que ça va potentiellement être vu par des gens extérieurs à ma communauté, j'ai toujours peur de me faire agresser.
On sent le petit traumatisme de YouTube quand même, là.
Oui, un petit... Oui, quand même. Les réseaux sociaux, c'est... J'adore étudier ça, hein, parce que ça a bouleversé nos vies, autant dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Je me trouve encore plus vulnérable au regard d'autrui. Et quand on est dans le milieu de l'équitation... où c'est pas juste toi qui est en compte, mais aussi un cheval et sa vie, les gens sont encore plus virulents.
Ouais, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de filtre et la parole est libérée, mais un peu trop.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... C'est comme si l'empathie n'existait plus.
Ouais, c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est un peu un inhibiteur.
Un inhibiteur, ouais.
Oui, un inhibiteur d'empathie. Et je trouve ça dommage parce que souvent, moi, quand je reçois des critiques, parce que j'en ai encore hein, sur Instagram, soit c'est dit avec bienveillance, et ça, j'arrive à l'accepter, à dialoguer sans problème, soit c'est vraiment des attaques, et souvent c'est par rapport au bien-être du cheval, parce que les gens pensent détenir la recette magique du bien-être du cheval. Ils sont tellement lancés dans leur quête, enfin leur croisade, je dirais presque, qu'ils s'en fichent de si ça va blesser l'autre, sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est pas en blessant l'autre et en l'attaquant que tu vas, entre guillemets, le faire changer de camp.
Et toi, c'est par rapport à... Quand tu dis que tu te fais encore attaquer comme ça, c'est par rapport au mode de vie de... Ok ?
Ouais, parce qu'il est pas au prêt. Et c'est pas que je veux pas, tu vois.
Ouais, je sais, ouais.
C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Et on m'a déjà dit, oui, mais si tu voulais vraiment... Non, malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. Même quand tu veux vraiment quelque chose, des fois, tu mets beaucoup de temps à l'atteindre. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, qu'on s'en fiche du temps qu'on met à atteindre un objectif. Ce qui compte, c'est d'essayer chaque jour d'aller vers cet objectif.
Si tu veux bien, du coup, je vais te poser mes trois questions pour clôturer ce podcast. Donc, la première, c'est si tu devrais changer quelque chose à ton histoire avec OK, est-ce que tu aurais une idée de quoi ?
Par exemple, cette histoire au pré où j'ai vraiment vu mon cheval souffrir, si j'avais peut-être pris plus le temps d'observer ce pré dans le détail, de me renseigner plus, parce que j'étais très dans l'euphorie. Hein.
Ouais.
C'était mon rêve de mettre mon cheval en troupeau, j'étais trop contente et j'ai pas tout observé correctement pour prendre une décision qui était mûrement réfléchie finalement. Parce que ça me semblait être évident qu'il serait au pré, il serait heureux, alors que c'est pas si facile. Des fois je me dis, ouais, j'aurais juste dû être un peu plus vigilante. Mais tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était une erreur, mais en soi, j'en retire des plus d'exigences et d'attentes.
Tu pourrais vous définir, toi et OK, en trois mots.
Je dirais qu'on est tous les deux des curieux. C'est un cheval qui est très curieux. J'adore ce côté-là de sa personnalité. Et c'est super agréable de travailler avec un cheval qui est curieux. Ensuite, moi, je suis amoureuse de mon cheval. Ça, c'est un point qui est indéniable. Mais je me suis toujours dit, lui, je sais pas s'il est amoureux de moi, mais je sais qu'il... En tout cas, il est un petit peu attaché, c'est déjà bien. Je pense qu'il y a une espèce... On peut mettre le mot amour un petit peu dans notre relation, mais voilà, c'est plus une espèce d'amour fraternel, si on peut appeler ça comme ça. Après, je dirais... ouais, on est tous les deux à l'écoute l'un de l'autre. Enfin, moi, j'essaye au maximum et je sens qu'il s'intéresse à ce que j'essaye de lui dire, de lui proposer. Et donc voilà, je dirais que s'il y avait trois mots pour définir notre relation, ça serait écoute, curiosité et amour.
Et enfin, la dernière question pour clôturer ce podcast, c'est qui aimerais-tu entendre en interview ici ?
Eh bien, écoute, depuis 2020 à peu près, je suis un petit compte qui est très sympa. C'est le compte de Marie de Equine Oana. Je ne sais pas si ça te parle.
Absolument pas, j'irai voir ça sur Instagram.
J'aime beaucoup son compte, elle a une jument qui a eu une pouliche et du coup, elle a les deux. Et voilà, c'est un compte que j'aime beaucoup.
Eh bien écoute, merci beaucoup Montaigne d'être passée sur ce podcast. C'est un plaisir de te recevoir.
Bah merci, plaisir partagé.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et nous on se retrouve bientôt pour un prochain interview. Bye tout le monde! Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à continuer le débat en nous retrouvant sur Instagram au pseudo Oregon Pezerol.